8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. En cette journée mondiale de l'eau, l'ONU sonne à nouveau l'alerte et parle d'une planète au bord du gouffre après une décennie record de chaleur. La sécheresse frappe une personne sur quatre dans le monde. Face au réchauffement climatique, comment changer notre consommation et notre production agricole pour partager ce bien commun qu'est l'eau ? En France par exemple, chaque personne consomme en moyenne 5000 litres d'eau par jour. Alors que l'on soit usager, paysan ou industriel, quelles sont les alternatives possible pour économiser l'or bleu et anticiper les pénuries d'eau. On en parle bien sûr avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Charlène Descolonges.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure hydrologue, cofondatrice de l'association pour une hydrologie régénérative, autrice du livre « L'eau, fake or not », c'est aux éditions Tana. Vous nous direz d'ailleurs quelles sont les alternatives possibles, mais pour vous elles sont collectives. Hein.
Tout à fait.
Tous ensemble. Nous sommes en ligne également avec Amlette Diallo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet de gestion intégrée des ressources en eau au GRET, l'organisation de solidarité internationale à Dakar au Sénégal. D'ailleurs, vous êtes dans les studios de RFI en Mandincan et Fofouldé à Dakar, dont on remercie les équipes techniques, notamment merci à Lassane. Vous aussi, hein, vous nous raconterez, vous prenez une gouvernance collective et vous nous raconterez justement comment vous travaillez sur le terrain. D'ici une vingtaine de minutes, nous serons en ligne avec Najet Benrabah, notre correspondante à Medellin en Colombie. Aussi, vous le verrez, on fait face à la sécheresse alors que c'est pourtant un des pays qui a le plus de réserves d'eau au monde. Et bien sûr, vous qui nous écoutez, bah, racontez-nous comment vous gérez au quotidien votre consommation d'eau. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins et de voisines.
Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin.
Bonjour, je m'appelle Camara Assia. Je suis membre fondateur et coordinatrice de l'ONG Ensemble, ONG environnementale basée en Mauritanie. Dans la capitale Nouakchott, il y a des problèmes d'eau, mais personnellement, au cœur de la capitale, nous avons accès à l'eau assez facilement. Personnellement, pour économiser l'eau, j'ai mis des réducteurs à hauteur de 50% à 75% sur tous les robinets de la maison. Je mets des seaux dans toutes les salles de bain, de sorte à recueillir l'eau quand on attend l'eau chaude, par exemple, ou après le bain du petit dans une bassine, de l'eau qui puisse être recyclée, utilisée pour les toilettes, au lieu de tirer la chasse d'eau à chaque fois. Je fais du compost, donc je recycle l'eau de la cuisine autant que faire se peut, et je recycle aussi l'eau issue de la climatisation, quand il y a lieu, pour l'arrosage des plantes. Voilà pour mon humble contribution. Merci.
Salut à toute l'équipe RFI. Chez moi, j'ai facilement accès à l'eau et les habitants de mon quartier aussi sont dans le même cas que moi. Je suis aussi étudiant en gestion de l'eau et de l'environnement. Donc avec les cours que j'ai suivis à l'université, ça m'a permis de comprendre que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir accès à l'eau potable et surtout potable. Donc pour économiser de l'eau, j'ai un seau que je dépose à la maison et quand nous utilisons les eaux, lorsqu'elles sont usées, nous les mettons dans ce seau et que nous utilisons pour arroser notre jardin au lieu de puiser de l'eau propre pour le faire.
Merci beaucoup Eric Delomé au Togo et bien sûr Assia de Nouakchott. Bon, on le voit, hein, chacun ses éco-gestes pour tenter d'économiser de l'eau. Pour commencer, Charlène Descolonges, on a quand même besoin d'une petite leçon d'hydrologie. Comment fonctionnent les fameux cycles de l'eau ? Parce qu'on l'a appris à l'école, ça remonte. Mmh. Hein, on nous expliquait voilà, qu'il y avait l'évaporation, la condensation, la précipitation. En quoi ces leçons sont peut-être inexactes ou dépassées aujourd'hui ?
En fait, une récente étude est menée par une équipe internationale de chercheurs ont montré que sur les 500 schémas et représentations du cycle de l'eau, eh bien, 90% du temps, plus de 90% du temps, on ne représente pas nos interactions humaines avec ce grand cycle et à quel point on l'a modifié, à quel point on est dépendant aussi. Et selon cette source, ils estiment qu'on s'approprie, l'humanité s'approprie chaque année 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. Alors, personne n'arrive à se représenter 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. Pour donner une idée, c'est la moitié des débits qui s'écoulent des fleuves aux océans. C'est comme si on prenait tous les fleuves des continents et qu'on en détournait la moitié des débits et puis on dirait, bah ça, cette masse d'eau là, c'est pour l'humanité, c'est pour produire notre énergie, notre alimentation, nos objets du quotidien, tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner nos sociétés. Et donc, l'humanité s'est complètement appropriée cette ressource en eau qui est vitale et qu'on partage pourtant avec l'ensemble du vivant et des écosystèmes. Moins de 1% de toute l'eau douce présente sur Terre est accessible aux hommes.
C'est pas beaucoup, hein,
c'est pas 1%, beaucoup. Hein. Quand on y pense, on se dit, bah, en fait, l'eau, il y en a partout. Mais ouais. En fait, non, elle est essentiellement emprisonnée dans les glaciers et dans des nappes très profondes et peu accessibles. Donc le reste, eh bien, c'est ce qu'on partage et qu'on voit en fait, circuler dans l'atmosphère, s'infiltrer dans les sols, dans les nappes, etc. Mais au final, aujourd'hui, une goutte d'eau, elle mène un véritable parcours du combattant pour pouvoir faire son grand cycle.
C'est pour ça qu'on la surnomme de plus en plus l'or bleu. Hein. Ahmet Diallo, vous qui travaillez dans différents pays du continent, hein, aussi bien le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, le Togo et le Burkina, en matière de réchauffement climatique et forcément de sécheresse, est-ce que la situation est différente selon les pays?
Oui, en réalité, par exemple, au Sénégal, c'est un peu un pays qui se trouve au Sahel. C'est comme le Mali, le Burkina également. Aujourd'hui, on constate que les changements climatiques, c'est une réalité dans nos pays. Ça se traduit par une intensité et une variabilité pluviométrique. Et cela se traduit par des inondations dans les grandes villes. On en a vu à Dakar récemment. Mais ça se traduit également sur le terrain par, en tout cas, des besoins en eau croissants aujourd'hui et une baisse également des nappes, mais la disparition des eaux de surface. Et du coup, les premiers impactés, c'est comme vous l'avez dit, c'est les agriculteurs qui dépendent essentiellement de cette eau-là pour mener à bien leurs activités. Et aujourd'hui, dans nos pays, la pénurie, effectivement, elle est parfois localisée. Par exemple, au Sénégal, vous prenez la zone de Niaye où le GRET intervient, on voit que depuis les années 70, il y a une crise d'une sécheresse qui s'est prolongée, qui fait qu'aujourd'hui, on note une baisse de la pluviométrie de 300 mm en 30 ans. Et cela a beaucoup menacé sur la recherche de la nappe. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut utiliser cette nappe-là pour faire son activité. Et ça crée une course au pompage. Et donc, en tout cas, ça crée des inégalités et des conflits entre usagers.
Ouais, quand vous dites tout le monde, c'est vrai que ça crée des conflits aussi bien quoi, entre les activités minières, les paysans, l'élevage, partage compliqué. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que vous mettez en place des gouvernances hein, pour partager l'eau. Comment vous faites d'ailleurs pour concilier les intérêts des uns et des autres?
Oui, parce que effectivement, on est dans une zone où il y a d'abord, on dit que c'est une zone, c'est un grenier horticole du Sénégal. Et effectivement, on a ces multiples usages qui sont là-bas, les industries minières extractives qui utilisent la nappe, les industries d'agro-business, on a l'agriculture familiale qui est à côté, l'élevage, l'accès aussi à l'eau potable. Pour le local, mais aussi pour les grands centres urbains comme Dakar. Et du coup, on a autant d'acteurs aujourd'hui qui tournent autour de ces ressources et les acteurs travaillent de manière cloisonnée. Et nous, le GRET, dans le cadre en tout cas d'un projet qu'on accompagne le gouvernement du Sénégal pour mettre en place en tout cas une gouvernance locale des ressources en eau, et ça se traduit par le regroupement de ces acteurs-là en des instances qu'on appelle des plateformes locales de l'eau, qui regroupe tous ces usagers-là et qui discute aujourd'hui de la fragilité de cette ressource en eau, mais aussi comment arriver à mettre en place des règles de gouvernance pour, en tout cas, préserver cette ressource en eau-là. Et aujourd'hui, on en a mis en place 3 dans la zone de Niaye depuis 2017. Et ces acteurs-là discutent, échangent, trouvent des solutions pour, en tout cas, parvenir à gérer les ressources en eau. Mais nous reviendrons très concrètement à ce qui a été mis en place dans cette zone-là, pour peut-être illustrer nos propos.
Tout à fait, et notamment auprès des agriculteurs. Charlène Descollonges, voilà, on le voit aussi en Europe, notamment en France. Réchauffement climatique, on en parle. Sécheresse qui impacte des régions, bah, c'est plus uniquement maintenant les régions chaudes ou désertiques. Hein.
Tout à fait. Alors en France, on a, pour rebondir sur oui, cette gouvernance de l'eau, on l'a aussi en France, on l'a depuis 1964 avec la première loi sur l'eau qui a instauré ce qu'on appelle des instances de bassins, de grands bassins versants sur les 6 grands fleuves de la métropole. On a des sortes de parlements de l'eau, pareil, entre des élus, des usagers, des associations, des riverains et les services de l'État. Mais malgré tout ça, on se sent rattrapé en fait, vraiment, véritablement par le changement climatique. Qui est très très présent en France, mais aussi d'une manière générale autour de la Méditerranée, aussi en Afrique évidemment. En fait, on voit une baisse tendancielle de la ressource en eau renouvelable chaque année. Il faut savoir que sur tout un pays et tout un bassin versant d'une manière générale, on a de la pluie qui arrive, elle repart dans l'atmosphère. En France, à peu près 60% de la pluie qui arrive repart dans l'atmosphère. Elle n'est pas stockée. Donc sur les 500 milliards, il y en a vraiment 200 milliards qui peuvent être utilisés et donc profiter aussi aux rivières et aux nappes. Et dans ces 200 milliards, et ben on l'utilise pour absolument tout, hein, c'est ce que je disais. Mais on se rend compte que les sécheresses, elles sont plus intenses, plus importantes parce qu'on a une élévation de la température, donc une plus forte évapotranspiration aussi. Et aussi, on a l'aménagement du territoire qui a tendance à évacuer l'eau le plus loin possible, le plus vite possible, ce qui fait qu'on a des sols qui sèchent plus rapidement et donc plus de sécheresse et aussi le pendant, c'est des inondations.
Oui, les plus abondantes qu'on a vues là dans le nord de la France.
Exactement.
L'un va avec l'autre,
et
en fait.
Voilà, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, hein, sécheresse et inondation. Et on s'aperçoit depuis quelques années maintenant que ces extrêmes hydrologiques s'intensifient avec le changement climatique. Et ça, c'est vraiment les prémices. On n'est qu'au début, en fait, de cette manifestation du changement climatique. Et on sait qu'un monde à plus 4 degrés, eh bien, ce sera une démultiplication de ces événements-là. On va multiplier par 4, par 5 des sécheresses extrêmes et par 3 des précipitations très intenses.
C'est un sujet très très évoqué par les pouvoirs publics, notamment au Sénégal, Ahmed Diallo, surtout en ce moment.
Oui, je pense que c'est une grosse préoccupation des pouvoirs publics. C'est pour cela que le Sénégal s'est lancé depuis les années 2000 hein, sur une dynamique de mise en place d'une politique GIR. Et ça s'est traduit par des instruments qui ont été faits à l'échelle nationale. Et à un moment donné, on a voulu décliner cela à l'échelle locale. Et nous, Grete, en tant qu'opérateur, on est en train d'accompagner en tout cas le ministère de l'eau et de l'assainissement à travers la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau pour en tout cas amener les acteurs aujourd'hui à prendre conscience en tout cas de cette baisse de la nappe et aussi des impacts sur en tout cas la survie même en tout cas de la petite agriculture. Et aujourd'hui, ce qu'on constate dans cette zone-là, c'est de l'adaptation spontanée en fait. Aujourd'hui, voilà, les gens en pensant que voilà, on peut économiser de l'eau, mais en utilisant des moyens, par exemple les motopompes, le solaire. Aujourd'hui, c'est des outils qu'on utilise dans la zone de Niaï pour espérer avoir plus d'eau. Mais cela crée en tout cas une hausse de la consommation des ressources en eau, mais également des conflits entre usagers. Et cela se traduit également par des effets socio-économiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités dans cette zone-là, entre hommes et femmes, mais aussi beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui ont abandonné cette activité-là parce qu'ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas assez de moyens pour aller chercher la nappe, d'autant plus chaque année, la nappe baisse. Et il y a les gros industriels agro-business qui sont venus aussi dans cette zone-là. Mais tout cela aujourd'hui fait que l'État est conscient de cette problématique-là, maintenant engage une dynamique pour que les acteurs se mettent autour de la table, discutent et trouvent des solutions collectives. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers du collectif pour, en tout cas, gérer durablement cette ressource en eau. Et le GRET, aujourd'hui, est dans cette dynamique-là, accompagne les acteurs à travers des initiatives qui sont collectives, mais qui permettent, en tout cas, d'arriver à cette gestion durable de cette ressource en eau.
Voilà, puis on parlera dans quelques instants, justement, de cette gouvernance collective et forcément ces projets très concrets sur le terrain pour tenter d'économiser l'or bleu. Allez, on se retrouve dans quelques instants après la chanteuse originaire de Mayotte. Elle s'appelle Zili avec Amani sur RFI. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans 8 milliards de voisins et de voisines sur RFI en cette journée mondiale de l'eau. Comment changer nos habitudes pour économiser cet or bleu? On en parle bien sûr avec vous qui nous écoutez et nous invitez. Charlène Descollonges, ingénieure hydrologue, et Ahmed Diallo, chef de projet de gestion intégrée des ressources en eau au Grette à Dakar au Sénégal. Là, on vient d'écouter cette chanteuse originaire de Mayotte, Zili. Comment on l'explique d'ailleurs, cette crise de l'eau à Mayotte qui n'en finit pas?
Eh bien, cette crise de l'eau, elle est structurelle. On a des besoins en eau qui sont plus importants que la ressource en eau disponible. Mais on a aussi cette ressource en eau disponible qui diminue en raison de la déforestation massive qui sévit sur cette île. Malheureusement, si Mayotte était un pays, ce serait le cinquième pays le plus déforesté au monde. Et on sait pourtant le rôle primordial des forêts pour régénérer ces cycles de l'eau localement, pour infiltrer l'eau de pluie et permettre cette régénération, le passage de l'eau verte à l'eau bleue. On va pouvoir en parler après, mais en tout cas...
Non, on peut le dire même maintenant, parce qu'effectivement, voilà. Il y a trois types d'eau, eau verte, eau bleue, comprendre.
L'eau verte, c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par le végétal. C'est l'eau qui est contenue dans les sols et qui est utilisée par les plantes pour évapotranspirer, parce qu'elles font leur photosynthèse, elles ont besoin d'eau pour faire leur photosynthèse. Cette eau qui part par évaporation, elle reprécipite ailleurs. Il faut imaginer que vraiment c'est des flux d'eau verte, parfois au-dessus de certaines forêts, on voit des rivières volantes, et elle reprécipite quelque part et elle est recyclée comme ça, plusieurs fois, grâce aux forêts. Et c'est quelque chose que des chercheurs ont identifié, ont documenté, et se sont rendus compte que dans la plupart des pays qui subissent la déforestation, eh bien, le régime des pluies change. On a vraiment des pays qui voient leurs pluies diminuer à cause de cette déforestation. Donc, il faut préserver les forêts pour stimuler ce rôle de générateur de pluie, si je puis dire, et ensuite garder l'eau le plus possible dans les territoires.
Le problème du déboisement ou de la déforestation, Ahmed Diallo, je crois que ça vous concerne aussi, parce que sur le terrain, vous intervenez aussi beaucoup en Guinée, c'est ça, où les agriculteurs en Guinée ont tendance à déboiser aussi pour augmenter leur culture de pommes de terre qui sont forcément très gourmandes en eau.
C'est en Guinée, c'est au Sénégal. Aujourd'hui, les gens, tantôt je parlais d'adaptation spontanée, effectivement, chacun cherche en tout cas à trouver au moins pour s'en sortir. Et aujourd'hui, sur le terrain, on voit que tous les moyens sont bons, sont utilisés pour les agriculteurs, pour en tout cas s'adapter. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous, quand on est venu, effectivement, que ce soit en Guinée, que ce soit au Sénégal, on a trouvé que ces stratégies-là ne sont pas du tout durables. Donc, il fallait les accompagner dans des solutions aujourd'hui qui sont collectives, mais aussi qui pourront peut-être les aider à mieux améliorer les ressources en eau. Peut-être pour rappeler qu'au Sénégal, dans la zone des Niayes, que la baisse de la pluviométrie n'est pas le seul responsable, en tout cas, de la baisse de la nappe. Mais aujourd'hui, on a parlé de tous ces usages-là, mais c'est les prélèvements aujourd'hui qui sont assez importants et qui font que la nappe baisse. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, il faut travailler sur l'optimisation des usages. Et pour ce faire, c'est qu'il faut travailler sur des solutions. Les solutions, c'est l'agroécologie. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous mettons en place, que nous accompagnons les agriculteurs dans cette dynamique-là pour les aider à mieux, en tout cas, utiliser en tout cas, des techniques qui leur permettent de retenir le maximum d'eau par et pour la plante, mais aussi de préserver la qualité de l'eau, parce que dans cette zone-là, on a un enjeu aussi de qualité de l'eau lié au rejet industriel, mais aussi au rejet agricole.
Donc le goutte-à-goutte, le paillage, quel genre de technique vous leur proposez?
Voilà, il y a le goutte-à-goutte, il y a aussi le paillage, il y a aussi les couverts végétaux. On a aussi ce qu'on appelle l'analyse, les aider à mieux analyser les besoins en eau des plantes. Par exemple, on dit, écoutez, il ne faut pas utiliser certaines cultures qui consomment beaucoup d'eau, comme le piment, l'aubergine. Utiliser plutôt des cultures qui consomment moins d'eau. Et là aussi, on a aussi des pratiques économes en eau qui font quel type d'arrosage, comment calculer le nombre d'irrigation, d'utilisation d'eau par jour. Et ça aide en tout cas, à l'agriculteur dans son champ, à mieux gérer sa consommation en eau. Et l'autre aspect aussi, ce qu'on fait, c'est des aménagements collectifs et qui s'inscrivent un peu dans la durabilité. C'est un peu les cordons pierreux qu'on fait au niveau des bassins versants. C'est un peu les demi-lunes et c'est des diguettes et des activités de reboisement. Et cela participe à freiner, en tout cas le ruissellement.
C'est ça.
Et favorise également l'infiltration des eaux et réduire les inondations.
Charlène Descolons, je vous écoute. Ahmed Diallo, c'est ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative. Hein, c'est le nom de l'association que vous avez créée. C'est quoi? C'est des solutions fondées sur la nature, en fait.
C'est exactement ce que vient de décrire Ahmed. C'est parfait. Ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ralentir l'eau de ruissellement plutôt que la laisser se dévaler les pentes. On va créer des ouvrages qui vont la freiner. Et donc, ça peut prendre des cordons pierreux, comme il a expliqué, mais aussi, ça peut être des fossés végétalisés sur lesquels, en fait, derrière, on va mettre un bourrelet de terre. En fait, on va décaisser la terre, on va en faire une petite digue, toute petite. Hein, et ensuite, on va planter des haies. Donc ça, ça permet, ça, sur toute une pente, on va en faire plusieurs lignes, en fait, plusieurs rangées, qui va à la fois réhydrater les sols et recréer des haies, des corridors pour à la fois l'arbre, en fait, est un élément fondamental dans l'agriculture et l'agroforesterie. Il permet par ses racines le développement d'un réseau de champignons qui peut être très important pour la richesse des sols, la richesse biologique et aussi pour le stockage de carbone, la biodiversité, etc. Les arbres sont... Donc, il y a en fait l'hydrologie régénérative, c'est l'idée de ralentir, de densifier la végétation sur un triptyque. Eau, sol, arbre.
C'est ça.
Donc, cheminement de l'eau, les sols, l'agroécologie et l'arbre, l'agroforesterie.
Tout ça à partir de la nature. On a un appel au 33 7 64 45 51 41. On prend la direction du Congo.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Et c'est Godefroy qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Godefroy.
Bonjour Laurent.
Merci d'être avec nous. Vous êtes agripreneur. Vous cultivez des feuilles, des légumes feuilles et des légumes fruits. Comment vous gérez l'arrosage, vous?
En fait, à notre niveau, on a un bassin de rétention qu'on utilisait régulièrement ces derniers temps, mais on sent qu'avec le ralentissement des pluies, les pluies se font rares. Actuellement, on devait être dans la période des pluies, mais malheureusement, on n'a pas assez. Donc, du coup, on a opté pour l'arrosage le soir.
Oui, l'arrosage.
On arrose une fois seulement le soir pour éviter trop d'eau. Parce que là, le bassin est en train de tarir.
Oui, forcément. Et c'est suffisant pour vos légumes et vos fruits?
Non, on a un problème. J'ai même fait des images. Il y a un problème sur le rendement. Mmh. Là, par exemple, il y a les tomates qui sont en train de sécher. Par manque d'eau, c'est suffisant.
Ouais.
On n'atteint plus les mêmes rendements comme avant.
Oui, comme avant. La sécheresse, vous avez l'impression que quoi, ça s'est accéléré depuis quand, en fait? En tout cas, du côté de Brazzaville, Godefroy.
Bon, c'est... Tout au nord de Brazzaville, c'est trois dernières années. Hein.
Trois dernières années.
Ouais. Donc, c'est le processus du changement climatique qui tarde à rendre son verre. On ne sait pas exactement à quel moment il va pleuvoir. On est comme dans une incertitude. Donc là, avant, en mars comme ça, on devait avoir des pluies régulièrement. Malheureusement... Il n'y en a pas. Quand ça tombe, c'est des petites pluies dans une quantité insuffisante, donc qui n'arrose même pas les cultures. Alors que là, j'ai beaucoup planté, j'ai misé sur les pluies, mais il n'y en a pas assez.
Il n'y en a pas assez, oui. Ahmed Diallo, vous voulez peut-être rebondir sur le témoignage de notre auditeur Godefroy qui est à Brazzaville?
Oui, c'est une réalité. C'est ce qui se passe également en Guinée. Aujourd'hui, les évolutions sont très locales et souvent difficiles à prédire pour les agriculteurs. Et souvent, on a du mal à s'adapter. Et quand on n'a pas l'information climatique, on a du mal à se dire quand est-ce que je vais arroser, est-ce que demain il va pleuvoir ou pas, comment je vais en tout cas gérer ma campagne. Et même les agriculteurs du Sénégal sont confrontés un peu à ces problématiques. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un enjeu en tout cas d'aider en tout cas ces agriculteurs-là ou ces populations-là aujourd'hui à mieux comprendre en tout cas l'évolution locale de la pluviométrie.
Ouais.
Et ça, cet accès à l'information, les scénarios, les prévisions à court et long moyen terme, ça leur permet de décider sur le parcelle elle-même. Et aussi leur faible capacité également à répondre aux effets du changement climatique sur les ressources et les usages font que également ces acteurs-là aujourd'hui ont besoin de formation, ont besoin d'être accompagnés pour mieux en tout cas agir, en tout cas individuellement ou collectivement.
Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages, Godefroy, et belle journée du côté de Brazzaville. Forcément, Chalène Descolonges, chez nous aussi en France, c'est un débat, qui agite. Mmh. On parle de crise agricole, du monde agricole, de mutations nécessaires. Est-ce qu'on en a les moyens? Beaucoup de paysans disent que non, qu'ils n'en peuvent plus non plus. En même temps, il faut qu'on revoie aussi nos systèmes d'irrigation aussi. C'est un vrai débat en ce moment.
Bah oui, en fait, les agriculteurs chez nous demandent à stocker l'eau dans ces immenses mégabassines qui ne permettent pas un changement en fait du modèle agricole. On est sur un modèle très productiviste et les mégabassines ne permettent pas de sécuriser en fait comme on pourrait l'avoir avec cet agripreneur à Brazzaville. Lui, il vient pour sécuriser sa production, mais là on est en France sur des grands volumes d'eau qui permettent d'exporter en fait des céréales qui sont destinées à l'alimentation du bétail. Donc on change pas vraiment le modèle. Une retenue qui permet à des petits agriculteurs de travailler avec l'ensemble du vivant, en respectant la qualité de l'eau, etc., les écosystèmes, eh bien oui, ça c'est plutôt bénéfique. Mais là, la crise agricole, elle a malheureusement conduit à un rétropédalage sur des engagements qui étaient très forts pour réduire la quantité de pesticides, etc. Donc on est malheureusement pas dans, on va pas dans le bon sens.
On a un autre appel d'auditeur, c'est Aman qui nous appelle du sud de la région de Guidimadja dans l'extrême sud de Mauritanie. Bonjour Aman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes principal du collège de Tektaké et je crois savoir que vous n'avez pas assez d'eau du robinet, c'est ça pour tous vos élèves?
On a le robinet un jour sur deux, voire trois, voire même une semaine.
Ah oui.
Et maintenant, pour parler à cette situation, j'ai demandé le bureau des parents d'élèves de venir pour essayer de nous prêter main forte.
Et comment ils font?
Ouais, ils ont acheté des bidons. Ils ont demandé aux enfants d'abord, on s'est appuyé d'abord sur les enfants. Chaque enfant donne 100 rouillards par mois. Donc, ils ont acheté des bidons et on conserve l'eau dans ces bidons.
Et vous êtes, je crois, savoir, vous êtes obligé aussi d'embaucher un charretier pour aller chercher l'eau au puits, c'est ça, non?
Oui, le bureau des parents d'élèves, ils ont cherché un charretier qui va au puits remplir les bidons. Donc, il le fait normalement, chaque semaine, il fait ça trois fois. Voilà, pour les classes, nous avons des classes pléthoriques. Donc, des classes pléthoriques, chaque classe a un certain nombre de bidons. Donc, pour la première année, qui est de l'effectif de 95 élèves, nous avons 4 bidons, donc 80 litres, c'est des bidons de 20 litres.
Oui.
Pour la troisième année, qui est de 78, nous avons 3 bidons. La troisième année, qui est de 36, nous avons 2 bidons. Et la quatrième année, du collège, qui est 2 bidons également. Ça fait tout. Et le charretier, chaque fin du mois, le bureau des parents d'élèves lui donne un petit montant de 10 000 rouillards.
Donc en fait, c'est vraiment grâce aussi à la participation des parents. Vrai problème de gestion de l'eau dans un collège. Merci beaucoup, Taman, pour votre appel dans le sud de Mauritanie. Je crois savoir, Amad Diallo, vous aussi, vous menez des actions de sensibilisation dans les villages, mais dans les écoles aussi, c'est ça?
Oui, en fait, effectivement, parce que nous, c'est comme au Sénégal, dans la zone des Niay. Aujourd'hui, les gens sont confrontés à l'accès à l'eau potable, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens dans les villages, s'ils n'ont pas les moyens de creuser des forages, donc souvent, ils font appel, en tout cas, à l'État. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a une réforme de l'hydraulique rurale qui fait qu'on a des nouveaux délégataires de services publics d'eau qui viennent en tout cas pour gérer les forages. Et les forages auparavant étaient gérés par des Azifor, qui étaient des associations de gestion en tout cas de ces forages. Mais jusqu'à présent, on voit que voilà, tout le monde n'est pas encore satisfait en termes d'accès à cette eau-là. Et nous, on sensibilise, on essaie un peu de travailler avec ces acteurs-là pour faire des plaidoyers et amener l'État quand même à se rendre compte que dans certains villages ou dans tel endroit, il n'y a pas d'eau. Et on fait aussi des ciné-débats dans ces villages-là où on sensibilise les communautés à mieux économiser cette ressource en eau qui est rare et comment ils arrivent à changer les comportements au niveau des écoles. On fait aussi des fresques du climat avec les élèves. Là, on fait même également du théâtre forum qui est aujourd'hui un outil, un art social qui regroupe beaucoup de gens, où on fait passer de l'information pour amener les communautés à se rendre compte qu'aujourd'hui, la ressource en eau a tendance à baisser et il faut changer les comportements.
Ouais, changer les comportements. Alors forcément, ça nous amène, Charlène Descolons, on en parle beaucoup, aux éco-gestes à la maison, prendre des douches plutôt que des bains. Voilà. Est-ce que tout ceci est suffisant ou pas?
À un moment, il va falloir aussi mettre la main au portefeuille. Hein. En France, on ne se rend pas compte à quel point l'eau est peu chère. Quand on entend ce qui vient d'être dit là...
Oui, et quand on voit nos chiffres à nous, j'en parlais tout à l'heure, en France, on consomme 5 000 litres d'eau par jour et
alors,
par personne.
Ça, c'est l'empreinte eau.
Oui, c'est l'empreinte eau.
C'est l'empreinte eau, voilà. Et en France, on utilise 146 litres d'eau par jour. Mmh. Donc ça, c'est l'eau bleue, l'eau réelle, hein, domestique à la maison. Je ne sais pas combien vous en êtes au Sénégal, mais on est clairement très privilégiés. Hein.
Et vous avez des chiffres là-dessus au Sénégal ou pas, Ahmed Diallo?
Bon, sur l'eau potable, je ne dispose pas assez de chiffres.
Ouais.
Mais je sais qu'au Sénégal, quand même, le taux d'accès, il est...
On n'est pas à 150 litres par jour. Ouais. Quoi, hein. On estime que pour les besoins de base, se laver, boire, cuisiner, on est autour normalement de 50-60 litres par jour. Quoi.
Donc, le reste de l'eau, c'est quoi? C'est
les toilettes.
C'est les toilettes, les
bâtiments. C'est lave-linge, c'est laver la voiture, la piscine, les espaces près de chez soi. Et en fait, quand on fait une grosse moyenne, c'est ça. Dans le sud de la France, on est autour de 250 litres par jour parce qu'il y a les piscines, il y a beaucoup de piscines. Et dans le nord de la France, on est à 70-80 litres par jour parce qu'il n'y a pas moins de piscines. Les piscines, c'est vraiment un vrai problème aussi. Hein. Et donc, cette eau de confort, aujourd'hui, devrait être payée beaucoup plus cher. Et c'est ce qu'on appelle la tarification sociale et incitative, qui veut dire que les premiers mètres cubes qui sont vitaux, qui sont essentiels à la vie, on les fait payer moins cher, ou en tout cas presque gratuit. Et ensuite, tout ce qui dépasse un certain volume, on considère que c'est de l'eau de confort, on paye le prix fort.
Je vous propose d'aller du côté de la Colombie cette fois-ci.
8 milliards de voisins.
C'est vraiment quelque chose qui crée la proximité. C'est être ouvert à la rencontre de l'autre sans aucun a priori.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Même si géographiquement on est effectivement dispersés,
on existe ensemble.
En Colombie aussi, on fait face à la sécheresse alors que le pays fait partie de ceux qui ont le plus de réserves d'eau au monde. Pour en parler, on est en ligne avec notre correspondante à Medellín. Bonjour Najet Benrabah.
Bonjour à tous et à toutes.
Alors Najet, tout d'abord, pourquoi la Colombie d'ailleurs est un pays important en matière de réserves d'eau?
Eh bien parce que sa grande richesse en eau est due à l'Amazonie et à ses affluents, mais aussi à de nombreux fleuves, lacs, zones humides, aquifères souterrains et chutes d'eau qui se trouvent sur tout le territoire. Au total, la Colombie dispose de plus de 2100 km3 d'eau, soit près de 46 000 m3. Le ministère de l'Environnement et de Développement Durable confirme ce fait et d'après eux, le rendement hydrique du pays est 6 fois plus élevé que la moyenne mondiale et près de 3 fois plus que le rendement moyen de l'Amérique latine. En outre, c'est le pays avec 50% des landes du monde, les principales usines d'eau. Mais malgré tout, vous l'avez dit, on fait face à la sécheresse. Le changement climatique l'oblige donc à repenser son exploitation hydraulique, d'autant plus que c'est la source principale de production d'électricité ici. Par exemple, en février cette année, des coupures d'eau ont été réalisées dans plusieurs villes du pays pour faire face à la sécheresse.
Ouais, des coupures d'eau, hein, carrément. Cette sécheresse, justement, elle est visible quelque part, on la voit à plusieurs niveaux.
Oui, exactement. C'est le cas, par exemple, dans la ville de Guatapé, près de Medellín. Cette ville touristique est très connue à travers tout le pays pour sa pyramide naturelle. C'est une sorte de rocher en forme de pyramide et bien sûr aussi pour ses lacs tout autour de ce rocher. Cela permet bien sûr des activités aquatiques, mais cette année, ce n'est plus possible. Le niveau de l'eau a baissé de 50% à tel point que les autorités ont pu retirer des tonnes de déchets piégés dans les lacs et le barrage d'eau. On peut marcher dans le lac sec par endroits. On a vu d'ailleurs beaucoup de reportages aux journalistes qui sont complètement à l'intérieur, marchant sur le sable du lac, complètement séché. Les bateaux donc ne peuvent plus y naviguer dans certaines zones et dans d'autres activités touristiques sont restreintes, forcément. Cela a un impact direct sur le tourisme, qui est la principale activité de la ville. D'ailleurs, les commerçants s'inquiètent. À partir de la semaine prochaine, on entrera dans la zone, de haute saison touristique. C'est la Semana Santa ici, la Semaine Sainte, et tout le monde voyage. Cette sécheresse en particulier est liée au phénomène d'El Niño qui se manifeste dans le pays, dans les régions andines et des Caraïbes. C'est un phénomène climatique qui se caractérise par une diminution généralisée des précipitations, ce qui, ajouté à l'évaporation de l'eau, eh bien, réduit considérablement la disponibilité en eau. Cela concerne tant le niveau du lac pour le tourisme que le niveau du barrage d'eau pour l'approvisionnement des populations et la production d'énergie.
Oui, et puis je crois savoir qu'il y a une autre conséquence visible à Najat, c'est au niveau des glaciers, hein.
Exactement, je dirais même un peu comme dans beaucoup d'autres pays, même si la Colombie est un pays situé en zone tropicale, eh bien la Colombie possède des nevados, c'est donc des glaciers, et d'après le ministère de l'Environnement et du Développement Durable colombien, eh bien au cours des 30 dernières années, la masse glaciaire colombienne a diminué de 56%. Certains des facteurs qui affectent le plus l'eau sont par exemple la pression accrue de la ressource dans les zones hydrographiques à faible offre par exemple, l'interruption du cycle de l'eau, la baisse de la qualité de l'eau, l'utilisation inefficace de l'eau et puis même parfois la faible gestion de la ressource. Donc vous voyez, la situation est un peu complexe ici et tout le monde s'y intéresse depuis plusieurs mois et on continue à être vraiment attentif même si depuis une semaine les pluies ont commencé à reprendre. Donc pour finir, je vais vous donner quelques chiffres alarmants de l'ONG WWF, car d'après elle, d'ici 2050, 5,7 milliards de personnes dans le monde vivront probablement dans des zones de pénurie d'eau et le nombre de personnes exposées aux inondations eh bien, devrait atteindre 1,6 milliard.
Merci beaucoup Najat Benraba, notre correspondante à Medellin. Chalène Descoulons, je voulais peut-être réagir à ce qui se passe à la fois là-bas en Colombie et ces chiffres.
Et qui a un reflet de ce qui se passe aussi en France, mais dans les Andes d'une manière générale. Là où il y a des glaciers, on a fortement aménagé en fait, les barrages. En fait, on a mis là, où, pensant qu'il y avait de l'eau, on a mis ces barrages pour stocker l'eau, faire de l'hydroélectricité, l'irrigation, etc. Mais en fait, c'est les endroits les plus vulnérables au changement climatique. Et on voit qu'avec la fonte des glaciers, qui est accélérée, la baisse de l'enneigement aussi, eh bien, ces barrages ne se remplissent plus. Et il y a une étude qui a été menée à l'échelle internationale qui montre que chaque année, on perd 22 gigatonnes d'eau par an dans ces grands ouvrages parce que l'élévation des températures fait qu'il y a plus d'évaporation. Mmh. On utilise beaucoup plus d'eau, on prélève beaucoup d'eau. Et voilà, en fait, cette perte d'eau, elle va se généraliser.
Et face à cette perte d'eau généralisée, là, on sait qu'en ce moment, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il y a toute une course au dessalement de l'eau de mer. Pourquoi pour vous, vous dites que c'est le comble de la maladaptation ?
Alors, c'est le comble de la maladaptation. On les voit, ils ont vraiment fleuri. J'aime pas ce terme parce que pour les usines de dessalement d'eau de mer n'ont rien de naturel. Elles se sont installées surtout dans les pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient, pardon, où on a besoin d'eau pour les puits de pétrole, où on va injecter de l'eau pour faire sortir les hydrocarbures. Et donc, c'est un comble parce que la plupart des usines de dessalement qui sont utilisées aujourd'hui, qui sont essentiellement sur le bassin méditerranéen et dans les îles, pour produire de l'eau potable hein, aussi, eh bien, elles fonctionnent aux énergies fossiles. Donc, c'est un peu un cercle vicieux où, parce qu'on a des sécheresses, on dessale l'eau de mer, mais qui émettent des gaz à effet de serre et donc réchauffent encore plus le climat. Donc, ce n'est pas du tout une solution à envisager à long terme parce que non seulement elles émettent des gaz à effet de serre, et quand bien même on développe des solutions à énergie solaire, il reste le problème des saumures, puisque dès qu'on dessale de l'eau de mer, on se retrouve avec un concentré de sel dont on ne sait pas quoi faire.
Des projets de dessalement ou alors des retenues d'eau, les barrages, est-ce que c'est des questions dont on parle ou pas au Sénégal, notamment Ahmed Diallo?
Oui, mais aujourd'hui, la réalité, il faut le dire, hein, aujourd'hui, dans bien des endroits, en tout cas, la gestion de l'eau ne permet pas, en tout cas, de faire face de manière, en tout cas, satisfaisante à la variabilité, en tout cas, des changements climatiques. Et on l'a vu. Hein, et ce qu'on note, c'est que la réalité, c'est que la pénurie d'eau, elle est soit, en tout cas, localisée ou temporaire ou non. Mais dans nos zones, nous savons très bien qu'à certains endroits, elle est vraiment localisée et les gens cherchent aujourd'hui à s'adapter. Et à s'adapter, par exemple, dans la zone de Niay, on voit que dans une des communes, l'État, a mis en place en tout cas des bassins de rétention d'eau. C'est une des communes qu'on appelle la commune de Morolan parce que c'est une commune qui est un peu en pente. Et là, à chaque hivernage, les bassins collectent beaucoup d'eau. Mais cette eau-là, elle doit servir, elle est censée servir pour faire de l'agriculture, pour faire de l'élevage. Mais on voit que, une fois que la saison des pluies, en tout cas, se termine, deux mois après, en tout cas, l'eau, toute l'eau s'évapore.
Ouais.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, soit s'il y a un ensablement de ces bassins-là, donc nous, on s'est dit qu'il faut agir en amont, il faut faire des cordons pierreux pour limiter l'ensablement, mais aussi permettre l'infiltration. L'infiltration de l'eau. Et aujourd'hui, toutes ces initiatives qu'on a faites, associées aussi à du reboisement, on voit que dans certains endroits un peu éloignés, certains agriculteurs voient que leur puits, en tout cas, commence à avoir de l'eau. Et aujourd'hui, c'est des initiatives qu'il faut, en tout cas, mettre de l'avant.
Ouais.
Et vu qu'aujourd'hui, la thématique de la Journée mondiale de l'eau, on parle de l'eau pour la paix. Mais nous, nous avons initié dans la zone des Niayes ce qu'on appelle un peu le partage des ressources en eau.
Ouais.
Bon, c'est un peu la gouvernance partagée des ressources en eau, mais en disant aux acteurs, il ne faut pas penser besoin, mais plutôt penser ressources. Mmh. Et ça, ça permet un peu un partage entre les différents usages pour des soucis aussi d'équité.
Alors, Charlène de Conanjoie, vous avez envie de réagir parce que vous n'utilisez pas le terme de ressources,
non ? Parce que souvent, ressources, c'est quelque chose qu'on va extraire, privatiser pour une minorité. Moi, je préfère parler de commun.
C'est un commun. Bien commun, on dit.
Bien commun. Même le bien, c'est marchandable. Donc, non,
et nous, c'est commun, oui. Nous, c'est le commun qu'on
dit. Oui, voilà. Exactement. Ouais. Bah, voilà, je préfère ça. Parce que c'est vraiment quelque chose que, comme dit Ahmed, c'est quelque chose qu'on doit partager vraiment entre nous. Et c'est pas forcément. Quand on parle de l'eau, on parle souvent de crise, de guerre, de manque, etc.
Alors, on parle de la guerre de l'eau qui peut avoir lieu ou qui a peut-être déjà lieu. Hein, oui.
Alors qu'en fait, c'est un instrument de paix. Enfin, c'est un vecteur de paix. C'est quelque chose qui rassemble, qui relie chaque être humain à l'échelle d'un bassin versant. Donc le bassin, c'est les limites naturelles en fait d'un territoire. Et tout ce qui est fait en amont par les habitants d'un bassin versant aura des répercussions sur ce qui se passe en aval. Donc il y a une responsabilité collective à se mettre autour de la table et réfléchir ensemble à un partage de l'eau équitable et durable avec le changement climatique.
Mmh. D'ailleurs, je crois savoir aussi, Ahmed Diallo, dans vos gouvernances-là, les femmes ont une place aussi importante, hein.
Oui, effectivement, parce que nous, on s'est dit que les femmes, depuis le début, quand on a démarré le projet, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Peut-être les femmes, alors que c'est elles qui subissent le plus cette question de changement climatique.
Les corvées d'eau aussi.
Et nous, on a fait des corvées d'eau et tout, le maraîchage. Et on s'est dit qu'effectivement, ces femmes-là doivent être renforcées. On a initié un programme, ce qu'on appelle un programme d'empowerment des femmes, pour aider les femmes à prendre la parole en public, mais aussi à mieux intégrer les instances de gouvernance qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, on voit que les femmes prennent en compte leurs problématiques dans ces instances-là, mais également font du plaidoyer pour accéder à l'eau, accéder au foncier. De même que les hommes, faire aussi de la transformation des produits agricoles. Et je pense que le projet aujourd'hui a accompagné ces femmes-là à plus d'émancipation. Et nous sommes dans cette dynamique-là pour que les femmes aussi ne soient pas, en tout cas, les victimes en tout cas, de ces changements climatiques-là.
Ouais. Et comme vous dites, et pourquoi vous le dites d'ailleurs, Charlène Descollonges, et ça sera peut-être ma dernière question, mais pourquoi vous dites que l'eau est le parent pauvre des politiques climatiques, notamment en France ou en Europe ?
Quand on parle de climat, on parle que de carbone. On ne parle pas d'effondrement de la biodiversité, on ne parle pas de notre surexploitation de l'eau et de la manière... La manière dont on la traite, en fait, dont on l'a toujours traité aussi, comme on a traité aussi les femmes fut un temps. Hein, je fais beaucoup de parallèles entre la condition des femmes et notre rapport à l'eau. Et en fait, l'eau, c'est pas un problème. On n'a jamais eu de problème d'eau, ce sera pas un problème. On n'a pas fait le lien entre le cycle de l'eau et le climat, que en fait, c'est complètement lié. Et on se réunit tous les ans autour de la COP pour le climat, mais il n'y a pas de réunion mondiale autour de l'eau, si ce n'est cette journée mondiale de l'eau qui a son importance, mais vraiment avoir une politique ambitieuse internationale où justement on reconnaît l'importance du rôle des femmes dans certaines populations par rapport à cette vulnérabilité face au changement climatique. En fait, il faut vraiment qu'on intègre l'eau au cœur de toutes les politiques publiques.
L'eau pour la paix aussi. Merci beaucoup en tout cas pour vos éclairages, Charlène Descollonges.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, L'eau fake or not, c'est aux éditions Tana. Et grand merci à vous, Ahmed Diallo, chef de projet de gestion intégrée des ressources en eau au Grette à Dakar au Sénégal. Encore merci aux équipes techniques et à Lassane pour du côté des studios de RFI en Mandincan et Foulfoul D à Dakar. Merci à vous.
Merci.
Allez, on se quitte avec Revani et ce titre d'âme sur RFI.
Girl, I like to say your boom boom chow. Sigo sigo na le zoom zoom now. Luku luku want to make man drown. So give me kiss, neko chum chum wow. When you wave, when you swim, swim, zao. Na luku luku, wewe si your level zao. Teke teke, tepe tepe, sexy west, nyepe nyepe, no ma pepe, jenny wake. You know I like when you go down, 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 down. Down, 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 down. Yeah, 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 yeah. Big waist, got the load. I feel die for this, you are overload. Ilege jo 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 jekindo. So mama yo 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 dani yo. Teke teke, tepe tepe, sexy west, nyepe nyepe, no ma pepe, jenny wake. You know I like when you go.
Avec Down, c'est un titre à retrouver dans la playlist de RFI. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. Lundi à la même heure, vous retrouverez Emmanuel Bastide qui recevra Justine Massika Biamba. Cette militante féministe congolaise lutte contre le viol et les agressions sexuelles utilisées comme armes de guerre. Rendez-vous lundi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain. Bon week-end à l'écoute de RFI.